Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Podcast de l'Académie des sciences.
Je ne peux pas m'empêcher de faire un podcast sur poissons le 1er avril. Siméon Denis Poisson n'est pas connu du grand public, mais il a une œuvre immense en physique et en mathématiques. Né en 1781, mort en 1840, il a été élu à l'Académie des sciences en 1812. Dans la série des erreurs en science, je voudrais parler des erreurs judiciaires.
Oh là là, non, mais moi je ne suis pas inquiet, puisque je suis innocent.
Je voudrais dire quelques mots de son livre « Recherche sur la probabilité des jugements en matière criminelle et matière civile » qui date de 1837. Peut-on estimer le nombre de personnes qui ont été condamnées à tort pour un crime qu'ils n'ont pas commis? Peut-on estimer le nombre de personnes qui ont été acquittées à tort pour un crime qu'ils ont commis? C'est la question que Poisson étudie. Il n'est pas le premier à étudier ce genre de questions. Au moins deux mathématiciens célèbres l'ont précédé. Condorcet, avec son livre publié en 1785, Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Et Laplace, qui revient en 1825 sur ces questions dans son essai philosophique sur les probabilités. Aujourd'hui, c'est du livre de Poisson que je voudrais parler. Il contient beaucoup de choses, comme la description de la loi des grands nombres, mais aussi la fameuse loi de Poisson, dite des événements rares. Voici le problème que se pose Poisson dans ce livre. Typique des mathématiques de son époque, qui se veulent enfin utiles à la société. Voilà, entre 1825 et 1830, les cours d'assises fonctionnaient de la façon suivante. Un jury comprenant 12 jurés votait pour décider de la culpabilité d'un inculpé. Lorsque l'opinion était majoritaire pour la culpabilité, avec au moins 8 voix contre 4, l'inculpé était condamné. Lorsque la majorité était de 7 contre 5, alors on faisait appel aux 5 juges professionnels pour prendre la décision. Poisson dispose des statistiques publiées dans les comptes généraux de l'administration de la justice criminelle. Il connaît le nombre total de procès en cour d'assises en France durant ces 6 années. 11 016 accusés de crimes contre les personnes. Et il connaît parmi ceux-ci le nombre de condamnations à la majorité d'au moins 8 jurés, ainsi que le nombre de fois où il a fallu faire appel au juge professionnel. Il connaît donc deux proportions. La proportion, petit a, des inculpés qui sont condamnés par une majorité d'au moins 8 jurés. Il trouve 47%. Précisément, petit a égale 0,4782. La proportion, petit b, des inculpés pour lesquels il y a eu exactement 7 des 12 jurés qui ont voté coupable. Il trouve petit b égale 0,1151. Selon Poisson, il y a deux inconnus dans ce problème. La probabilité petit x, pour qu'un inculpé qui se présente devant le tribunal soit coupable, et la probabilité petit y, pour qu'un juré, tiré au hasard, ne se trompe pas lorsqu'il vote. Poisson se fait un devoir de montrer comment on peut calculer petit a et petit b en fonction de x et y. Aujourd'hui, ce n'est pas très difficile à faire, et nous allons voir les formules d'ici un instant, mais il faut retenir que Puisqu'on connaît petit a et petit b, on a ainsi deux équations à deux inconnus, x, y, et on peut donc espérer calculer x et y, car il y a autant d'équations que d'inconnus. Certes, ces équations sont de degré 24.
Ah ouais, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est pourquoi que... Enfin, je n'en reparlerai après.
Mais cela n'effraie pas Poisson, qui trouve facilement les solutions, sans avoir besoin d'ailleurs de logiciels de calcul. Et il trouve x égale 0,54, y égale 0,68. Ainsi, un juré a raison 2 fois sur 3, et un inculpé est coupable 54 fois sur 100. Alors, je donne ici les chiffres pour les jugements qu'il appelle criminels. En fait, il considère plusieurs types de procès. Alors voici les équations.
Je vous laisse à votre leçon de calcul.
Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter, ça va durer quelques instants. Donc, n'écoutez pas. Équation numéro 1. Petit b égale x fois nombre de combinaisons de 12, 7, fois y à la puissance 7, fois 1 moins y à la puissance 5, plus 1 moins x, nombre de combinaisons 12, 7, fois 1 moins y à la puissance 7, y à la puissance 5. Ça, c'est la première équation. Et la deuxième, c'est petit a égale la somme pour k égale 8 jusque 12 de x, nombre de combinaisons de 12, k, y puissance k, 1 moins y puissance 12 moins k, plus 1 moins x, nombre de combinaisons de 12 par rapport à k, fois 1 moins y puissance k, y à la puissance 12 moins k. Ouf, voilà l'équation.
Comment résoudre un problème qui est impossible à la base ?
Poisson ne s'arrête pas là. Il faut maintenant calculer la probabilité qu'un condamné le soit à tort. Il trouve 0,02, 2 fois sur 100. Cela fait environ 18 cas par an. De même, il trouve une probabilité de 0,72 qu'un inculpé déclaré innocent le soit effectivement. 2% d'innocents dans les prisons, 28% d'innocentés qui sont en fait coupables. Est-ce trop ? Certainement.
Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison.
Pourquoi ?
Parce qu'en prison, il contamine les innocents.
Mais une discussion passionnante commence. Quelle est la limite qu'une société juste peut se permettre ? Voici ce que dit Poisson. Dans cette importante question d'humanité et d'ordre public, rien ne pourrait remplacer les formules analytiques qui expriment ces diverses probabilités. Sans leur secours, s'il s'agissait de changer le nombre de jurés ou de comparer deux pays où il fut différent, comment saurait-on qu'un jury constitué de 12 personnes et jugeant à la majorité de 8 contre 4 offre plus ou moins de garanties aux accusés et à la société qu'un autre jury composé de 9 personnes, par exemple, pris sur la même liste qu'auparavant et jugeant avec telle ou telle majorité. Mais Poisson ne s'arrête toujours pas là. Dans le cas où la majorité n'est que de 7 contre 5, les juges professionnels entrent en action et on connaît également le nombre de cas où ils ont prononcé une condamnation. On peut donc refaire l'exercice et calculer la probabilité pour qu'un juge professionnel se trompe lorsqu'il évalue la culpabilité d'un inculpé. Poisson trouve que cette probabilité est égale à celle des jurés populaires. Il écrit « Malgré une plus grande expérience des procès criminels que les juges ont sans doute, leur chance de ne pas se tromper dans leur vote paraît cependant peu différente de celle des jurés. » Il cherche à savoir quelle est la bonne taille d'un jury, quelle est la bonne majorité qu'il faudrait exiger pour condamner. Il compare les systèmes français, belges et anglais. Bien sûr, tout cela est complexe. Parfois, les jurés votent à bulletin secret, mais pas toujours. Parfois, les jurés peuvent déclarer des circonstances atténuantes et cela les encourage à être moins hésitants à voter coupable. Les valeurs de X et Y semblent différentes pour les crimes contre les personnes, comme le dit Poisson, et pour les crimes contre les biens. Poisson discute de tout cela. Le livre est long, un peu trop long parfois, mais l'introduction ne fait que 20 pages, et elle est agréable à lire et ne contient aucune formule mathématique. Elle nous montre un des premiers exemples de recherche mathématique en sciences humaines, et j'en recommande vivement la lecture. Aujourd'hui, un procès d'assises comprend 9 jurés, 12 en appel, et la décision de culpabilité est prise à une majorité d'au moins 8 jurés, 10 en appel. En 2021, les cours d'assises et les cours criminelles départementales ont condamné en premier ressort 2900 personnes et en ont acquitté 155, soit un taux d'acquittement de 5,1%. Près d'une personne jugée sur 10 est mineure. 31% des arrêts rendus ont été frappés d'appel. Les cours d'appel ont prononcé 530 arrêts portant condamnation de 760 personnes et 50 acquittements. Le taux d'acquittement en appel, 6,3%, est plus élevé qu'en premier ressort, 5,1%. Mais bien sûr, toute comparaison avec les chiffres de 1825 serait audacieuse. Voici ce qu'écrit Arago en parlant de Poisson. Poisson n'était pas seulement né géomètre, il était de plus né professeur. Communiquer verbalement à autrui le fruit de ses propres recherches ou le résultat des découvertes des autres mathématiciens semblait chez lui un véritable besoin. La qualité principale de Poisson comme professeur était une incomparable clarté. Peut-être, en cherchant bien, eût-on trouvé parmi les prédécesseurs ou les contemporains de notre confrère des professeurs à l'élocution plus facile, à la phrase plus étudiée, plus élégante. Mais on n'en citerait certainement pas dont l'enseignement fut plus profitable à son auditoire. On dit que Poisson déclarait « La vie n'est bonne qu'à deux choses, découvrir des mathématiques et enseigner les mathématiques. »
Pas mal, non ?
La musique que vous avez entendue s'intitule « Time ». Elle est écrite par Hans Zimmer et elle est extraite du film « Inception » avec Leonardo DiCaprio en 2010.
L'audience élevée.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.